Dominique Dorion, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, vous êtes, Dominique Dorion, le doyen de la faculté de médecine de l'université de Sherbrooke, mais vous êtes aussi un des spécialistes les plus reconnus au Canada en chirurgie oncologique cervico-faciale et en reconstruction microvasculaire. Un mot pour commencer sur la situation sanitaire et médicale en ce 28 avril au Québec. Est-elle satisfaisante à vos yeux?
La situation sanitaire est complexe au Québec. Vous en avez entendu parler comme moi. Il y a l'île de Montréal, il y a le reste de la province, il y a les CHSLD, les autres environnements de soins de santé, il y a la population en général, un peu partout, comme partout à travers le monde, la situation est complexe. Je vous dirais qu'on était dans une situation très difficile il y a une dizaine de jours, deux semaines. Les choses se sont grandement améliorées. Quand je parle de situation difficile, on parle bien sûr dans les CHSLD en particulier et en particulier, encore plus en particulier sur l'île de Montréal. Les choses se sont améliorées.
Le premier ministre parle de deux mondes, hein, les CHSLD et le reste. Hein. Vous êtes d'accord avec cette vision?
100% d'accord. Je vous parle de Sherbrooke en Estrie où dans les dernières semaines, il y a eu moins que entre 5 et 10 nouveaux cas de COVID par jour pour toute la région de l'Estrie qui est d'environ 500 000 personnes. On est dans un monde complètement différent.
De celui de l'Université de Montréal.
Absolument. On est déployé au Saguenay-Lac-Saint-Jean où il y a très peu de cas là-bas aussi. Donc, on est vraiment des mondes différents, des environnements différents. Et le premier ministre doit traiter tous ces environnements. Jusqu'à maintenant, c'est de façon très similaire. On vient d'entendre parler de différenciation dans le traitement. On va déconfiner ou on va réouvrir les écoles à la périphérie, c'est-à-dire en dehors de Montréal, plus rapidement. Donc, on commence à être obligé de traiter ces deux mondes-là de façon différente.
Pour une fois, les régions vont être privilégiées par rapport à l'île de Montréal. C'est ça qu'on est en train de dire.
Pour une fois, les régions seront privilégiées, effectivement.
Dominique Dorion, vous êtes donc, on l'a dit, doyen de la faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke. J'imagine que, comme dans toutes les universités, vous avez dû adopter les cours à distance, reporter les examens, suspendre des activités académiques. Comment ça se passe à l'université de Sherbrooke actuellement?
C'est intéressant que vous me parliez de ces choses-là parce qu'on est en réflexion très, très active autant pour l'université que pour la faculté de médecine. En passant, la faculté de médecine et des sciences de la santé. Je suis aussi le doyen des équipes de sciences infirmières et de réadaptation qui incluent physio et ergothérapie. Pourquoi je fais ce détail-là? Parce que chacun de nos secteurs a une réaction différente. C'est fascinant de voir l'écosystème complexe d'une faculté de médecine et des sciences de la santé. Du côté des sciences infirmières, par exemple, il a fallu délester une bonne partie de nos activités parce que autant nos profs que nos étudiantes ont dû retourner en première ligne dans les soins de santé. À l'opposé, en médecine, la formation se fait pour plusieurs étudiants sur les lieux de travail, dans stage, par exemple en résidence. Donc, pour eux autres, il y a eu à peu près pas de changements ou des changements relativement mineurs. Puis, entre les deux, nos programmes de réadaptation, nos programmes de médecine pour les premières années ont dû s'adapter et effectivement à développer exactement ce dont vous venez de parler, Philippe, des accommodements à distance. Parfois synchrone, où un professeur qui est assis en face de son ordinateur voit ses étudiants qui sont dans leur environnement personnel chez eux, des échanges qui se poursuivent comme ça. D'autres moyens asynchrones, c'est-à-dire qu'on enregistre des conférences, des cours, on donne aux étudiants l'opportunité de les écouter quand ils sont disponibles. Vous comprenez bien qu'en sciences infirmières dont je parlais, beaucoup des activités ont dû être asynchrones parce que nos étudiants et étudiantes en sciences infirmières travaillent, comme vous le savez, jour, soir, nuit, fin de semaine.
On les salue d'ailleurs.
C'est pour ça que j'ai pris la peine de mentionner cette équipe-là qui est juste formidable en première ligne sur le terrain. Donc, il a fallu adapter chacune de nos formations et on a dû puiser dans la vaste palette d'options pédagogiques pour
que vous aviez en main. Le mot-clé, ça semble être flexibilité. Vous étiez justement préparé à cette flexibilité, l'Université de Sherbrooke?
Oui, l'Université de Sherbrooke a depuis toujours fait de la pédagogie et de la flexibilité son mantra, si on peut dire. Vous comprenez qu'on est une faculté de médecine dans le plus petit environnement à peu près au Canada. L'Estrie, c'est quand on l'étire, c'est 1,5 million de personnes. d'avoir une faculté de médecine qui s'est installée ici il y a 50 ans, c'était visionnaire. Puis il a toujours fallu qu'on défende notre place dans la vie facultaire en médecine, la vie universitaire en médecine, autant au Québec qu'au Canada. Puis on a toujours tablé sur la qualité de la pédagogie, l'encadrement exceptionnel de nos étudiants. Donc, ça fait partie de notre ADN, si on peut parler en termes scientifiques, de la pédagogie centrée sur les apprenants. Donc, en dedans de quelques jours, la majorité de nos programmes avaient déjà fait la réflexion pour s'adapter. Je suis extrêmement, extrêmement fier de ce que nos équipes ont fait pour amener. Vous comprenez qu'on est dans un programme professionnalisant. Comme sciences infirmières, physiothérapie, médecine, on ne peut pas former des étudiants qui vont devenir des professionnels de la santé à rabais. On ne peut pas donner un diplôme comme ça. Bon, vous avez atteint 70% des objectifs, donc vous êtes infirmière, ben, on ne vous aura pas montré comment prendre soin d'une plaie en chirurgie, mais ce n'est pas grave. Fait qu'on peut pas faire de compromis sur la base.
On va y venir sur ces éléments au rabais, puisque il y a effectivement eu des primes en fait à ceux et celles qui pouvaient se mobiliser, les fameux permis restrictifs. On va y venir dans quelques instants. Les universités, elles ne pourront rouvrir dans le meilleur des cas qu'en août, physiquement, on parle. Beaucoup de recteurs appellent à la reprise des cours. Est-ce votre cas?
C'est intéressant ce que vous me demandez là, parce que en pratique, les activités de recherche, en particulier biomédicales et en santé, avaient continué. Toute la recherche sur le COVID, je ne parle évidemment pas de toutes les activités, mais la recherche sur la COVID a continué. Des programmes qui avaient un impact temporel évident, on avait eu des autorisations pour continuer de faire travailler certains projets de recherche. Je vous rassure, toujours en gardant les mesures de distanciation, de protection habituelles. Mais certaines activités avaient continué. Donc, dans la recherche, était au très, très, très ralenti. La recherche va reprendre tranquillement dans les prochaines semaines parce que c'est une industrie de plusieurs milliards de dollars pour le Québec, la recherche universitaire. Donc, les instances ont annoncé un retour dans les prochaines semaines de la recherche universitaire. Et il y aura une session d'été dans les universités québécoises qui va se donner à distance. Donc, il y a du personnel qui travaille. Il y a encore à l'équipe du registraire des gens qui prennent les inscriptions des étudiants. En médecine, on est sur le point. On commence à envoyer, dans certaines universités, c'est déjà fait, les offres de postes pour les étudiants qui vont commencer en septembre. Donc, on continue de travailler à distance, bien sûr, mais avec une petite portion physique.
Donc, ce que vous nous dites, en fait, Dominique Dorion, c'est que les facultés de médecine, finalement, sont dans un cas particulier par rapport au reste du milieu universitaire?
Nous sommes dans une situation où nous devions continuer de
C'est ça.
travailler,
C'est ça.
Où nous avons, mais encore une fois, l'immense majorité du travail se fait à distance. Dans les prochaines semaines, autour de la recherche, il va y avoir un retour. Vous êtes pas sans savoir que plusieurs des centres de recherche québécois sont dans des hôpitaux où il y a continué évidemment d'avoir des activités
Eh oui.
quotidiennes de circulation. Les mesures de protection sont bien implantées, la distanciation, port du masque, ça fait partie du quotidien de mon autre quotidien médical. Donc, ces centres de recherche-là vont relativement simplement pouvoir rejoindre le mouvement. Donc, la réalité, c'est que d'ici quelques semaines, Philippe, on va voir dans la majorité des universités, des activités de recherche qui vont avoir repris avec toutes sortes d'adaptations. On va continuer de faire nos séminaires avec nos étudiants aux études supérieures de la maison. On va continuer de s'isoler pour faire les activités. Il va peut-être avoir des gens qui vont travailler de soir, même de nuit, dans les grands laboratoires. On s'attend à ce que certaines de nos activités doivent se faire de nuit pour préserver la distanciation.
Et les
Il
règles
faut
sanitaires,
absolument,
ouais.
absolument, mais il faut absolument que la recherche reprenne puis redécolle dans les prochains jours, prochaines semaines au Québec. Avec ce retour de certains étudiants sur les campus, on va revoir un certain semblant de vie et d'activité. Les cours à distance continuent de se donner.
En tout cas,
Mais si on veut avoir une session en septembre, il va falloir que les gens
c'est
reviennent
ça.
physiquement préparer des choses.
Ce qu'on comprend, c'est que vous l'appelez de vos voeux, en tout cas, c'est ce retour physique. On parlait des diplômes au rabais. Parlons de ces permis restrictifs qui ont été émis pendant la crise. Est-ce que vous pouvez nous rappeler de quoi il s'agit?
Ben, en fait, ce dont on parle, c'est en particulier pour les médecins. Il n'y a pas de permis restrictifs qui ont été émis pendant la crise. Je vous ai glissé un mot sur les résidents, c'est des apprenants, c'est des médecins qui ont fait leurs 4 années ou leurs 5 années sur les bancs d'école, puis ensuite font 2 ou 5, 6, 7 ans de formation supplémentaire. Donc, ils sont rendus à 10, 11 ans d'université dans les dernières 5 années qui se sont formés dans les centres hospitaliers, sur les milieux d'enseignement. Et puis, ces gens-là, avant d'avoir un diplôme complet de médecin au 1er juillet, ont habituellement 2 étapes importantes à franchir. La première, c'est d'avoir fini toute leur formation, formation qui est évaluée par les médecins qui les encadrent, les professeurs qui les encadrent, donc des évaluations pratiquement au mois pendant 5 ans. Et au décours de ça, quand les universités disent cette personne-là a atteint tous les objectifs importants, on l'autorise à aller passer un examen national, qui est un examen écrit avec une composante orale, dont 2 jours qui se tiennent habituellement dans des endroits centralisés, le plus souvent à Ottawa, pour dire quelque chose. Ces examens-là vont regrouper tous les apprenants de la même cohorte. Moi, je suis ORL, chirurgien cervico-facial, vous l'avez mentionné, donc j'ai longtemps été en charge de cet examen-là pour le Canada. Et on avait 30, 35 étudiants à chaque année qui arrivaient de partout pendant 2 jours et on les quizait, on les challengeait, on les mettait au défi avec des examens très, très structurés, formels. C'est cette deuxième portion-là qui n'aura pas lieu. Bien sûr, je vous le décrivais comme étant tout le monde ensemble à Ottawa, qui n'aura certainement pas lieu ce printemps,
Donc, c'est
qui a
ça.
été remise sous un autre modèle à l'automne. Mais le point important, Philippe, c'est que le taux de succès à ces examens-là, après les 5 années de formation au Canada, est de plus de 95. Donc, on dépistait sur les 35
Ceux
étudiants
qui avaient le
qui
plus de
venaient
potentiel, c'est ça?
Sur les 35 qui venaient, qui avaient fait toute la formation canadienne, qui était depuis 5 ans encadrée par nos universités, il y en avait un par année ou 2 qui ne réussissaient pas l'examen et qui le réussissaient à sa deuxième tentative. Donc,
c'est
30
contrôlé.
étudiants-là,
Donc
c'est très contrôlé par la formation et par le travail des universités.
Un
Et
dernier
ça
mot.
sera pour Ce ne sera que pour quelques mois. Je ne veux pas que les gens s'inquiètent. C'est pendant quelques mois, c'est-à-dire pendant l'été, entre le 1er juillet et le mois de septembre, quand les examens vont avoir lieu, les gens vont avoir ce permis direct restrictif qui leur permet de tout faire jusqu'à ce qu'ils passent les examens. Au moment des examens, quand les 95% qui vont réussir du premier coup l'examen, ben ces gens-là vont avoir leur permis régulier. Donc,
On
il
l'a
n'y a
bien...
pas d'inquiétude pour
Pas
la population.
d'inquiétude. On l'a bien compris. Un dernier petit mot, et puis on va être obligé de clore ici, Dominique Dorion. Votre faculté de médecine, elle continue de prêter main forte au système de santé québécois en vue d'affronter donc cette crise. Vous avez envoyé en première ligne 500 professeurs, des chargés de cours, plus de milliers de chargés de cours sur le terrain pour voir des patients, plusieurs centaines d'enseignantes en sciences infirmières libérées pour soutenir le réseau, et j'en passe. Vous êtes fier, vous l'avez dit, de cette mobilisation?
J'ai une très, très, très grande fierté de ce qu'on fait, ce qu'on réussit à l'Université de Sherbrooke. Et puis, j'y tirerais même à ce qu'on fait en Estrie, ce qu'on réussit à faire. L'Estrie est une région privilégiée. Je vous écrivais tantôt les besoins pour l'université de trouver sa place en faculté de médecine. On a trouvé notre place en particulier avec les liens étroits avec le système de santé. Vous savez que l'Estrie est la seule région qui a un CIUS, c'est-à-dire qui inclut tous les soins depuis la première ligne aller jusqu'à la quatrième ligne. Juste sur l'île de Montréal, il y a 7 ou 8 CA qui gère des établissements de santé. Pour les 500 000 personnes de l'Estrie, il n'y a qu'un CA qui s'occupe d'un peu tout ça. Ça permet de collaborer, ça permet de structurer les soins, ça permet de...
Et d'être efficace.
Et d'être efficace.
Flexibilité.
Et d'être efficace et très fier.